Pendant les 6 ans où Jacques Lovinsky a été administrateur du Collège de France, j'ai été à ses côtés le vice-président de l'Assemblée des professeurs. Je me suis d'autant plus instruit que j'étais dénué de toute expérience de ce type et que durant son premier mandat de 3 ans, le bureau élargi n'existait pas. C'est lui qui l'a créé. Et la marche quotidienne de la maison reposait sur l'administrateur, le vice-président et le secrétaire de l'Assemblée des professeurs, qui était notre ami, notre si cher Jean-Christophe Yocoz. Jacques et moi étions fort différents, presque aussi différents qu'on peut l'être. Selon un lieu commun qui parfois semble vrai, il n'était pas si rare que le mathématicien et le littéraire fussent du même avis, différent de celui du biologiste. Et Jacques disait, en riant et en bougonnant, parlant de nous deux, « Il m'énerve !» Et cette formule que j'ai encore dans l'oreille m'émeut aujourd'hui, parce qu'elle le contenait tout entier. Il était vraiment énervé. Il le disait tout de go parce qu'il était incapable de dissimulation. Mais aussi parce que l'aveu même de l'énervement était si chaleureux, il était si chargé non seulement de bonhomie, mais d'amitié, d'affection, qu'il était un démenti de cet énervement autant que son aveu, qu'il nous unissait au lieu de nous séparer, que tout s'arrangeait et qu'on avançait. Avec Glo, on avançait toujours. Tant d'énergie, de volonté, d'inventivité, d'enthousiasme, d'autorité aussi, sans laquelle rien ne peut se faire, alliés à une telle capacité d'écoute, une telle attention à l'autre, une telle finesse et une telle rapidité à se faire une idée juste de celui qu'il avait en face de lui. Une telle bienveillance spontanée, une telle capacité d'admirer, et c'est si rare. Voilà une alliance justement extraordinairement rare et qui a fait le succès de la grande entreprise de Jacques Lovinsky. Je ne parle pas ici de la grande entreprise scientifique que j'admire sans rien y comprendre, comme le stropia au seuil du bal, comme dit Aragon. Cette grande entreprise a été, comme chacun sait, une réforme non seulement architecturale, mais une réforme morale aussi du Collège de France. Et elle a réussi parce que Glo n'a pas voulu réformer pour le plaisir d'être l'homme sur qui repose la réforme et le changement, pour être l'homme du changement, pour le plaisir de faire du neuf et d'envoyer le vieux à la réforme, comme on dit. Il n'a pas construit pour le plaisir de détruire. Il a construit et il a réformé par reconnaissance, par admiration, par fidélité et par respect pour l'institution dont il avait reçu la charge. Lorsqu'il a été élu administrateur, il se consacrait, comme on sait, comme André Michel vient de le rappeler, il se consacrait depuis de longues années déjà, depuis 10 ans presque, aux grands travaux du Collège. Et la partie la plus spectaculaire de ces travaux, l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, était déjà achevé et avait été inauguré 2 ans auparavant par Jacques Chirac sous le mandat de Gilbert Dagron. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient achevés, naturellement, ces travaux, et de très loin. Mais cela veut dire qu'au moment où il est devenu administrateur, il était temps de penser aux conséquences des bouleversements architecturaux, conséquences sur l'établissement lui-même et sur son fonctionnement. Penser aux conséquences, Jacques Lovinsky l'a fait très vite, comme il faisait toute chose, avec détermination, « let's do it », cette formule là de son maître Axelrod, même moi, je l'ai entendue, et combien de fois, n'est-ce pas ? Il l'a fait comme il faisait tout, avec détermination, avec audace et avec bon sens. Et prendre 2 décisions, enfin, banales, si on veut, qui paraissent banales maintenant, à titre d'exemple. La première, essentielle, là on a parlé, a été d'implanter de grands laboratoires au collège et sur ces sites même, de considérer que ce n'était non pas une règle absolue, mais qu'il était naturel que les professeurs amenassent leur laboratoire au collège. Et il l'a fait malgré une opposition politique parfois très vive et qui était incarnée en particulier par Claude Allègre, qui était un homme puissant à l'époque. On voit aujourd'hui le résultat impressionnant de ce choix, le résultat qui définit le Collège de France d'aujourd'hui. Et la seconde, beaucoup plus modeste, mais enfin je parle de choses littéraires, je suis désolé, a été de profiter des nouveaux amphithéâtres et des ressources techniques qu'ils offraient, non seulement pour attirer au cours du collège un public plus nombreux, mais encore pour toucher le public virtuel empêché d'assister en semaine et aux heures ouvrables à des cours donnés dans le 5e arrondissement de Paris. En ces années lointaines, l'email existait à peine et les ressources de l'Internet, pas du tout. Glo m'a chargé de négocier avec France Culture la diffusion intégrale chaque année sur les ondes des cours d'une dizaine de chaires du collège. Naturellement, pas tous les cours. Il y a des cours, les cours des vrais savants peuvent pas être diffusés sur France Culture puisqu'ils sont savants. Mais les nôtres, c'était possible. Donc, une dizaine de cours, mais la série des 26 heures, ou des heures, etc. Bon. Et l'entreprise a été un succès. Et si bien que, lorsque quelques années plus tard, sous le mandat de Pierre Corvol et grâce à lui, le collège a tiré parti des possibilités immenses et dont il a su tirer parti avant même qu'on mesure à quel point elles étaient immenses, de la diffusion en ligne, en podcast, par vidéo aussi bien que par audio avec traduction simultanée, etc. Eh bien, au moment où le collège, sous Pierre, si je puis dire, a fait ce bond, il y était prêt, n'est-ce pas ? L'élan était pris, et les cours sont passés sur la toile sans même que les professeurs s'en aperçoivent, ou presque. Ça allait de soi. Grâce à Jacques Glowinski, nous avons trouvé tout naturel d'être les premiers sur le marché. Un marché gratuit, bien sûr, et cette fois grâce à Pierre Corvol et à la Fondation Bettencourt. Tout cela paraît aujourd'hui aller de soi. Ça n'allait pas du tout de soi. Implanter au collège même les laboratoires des professeurs, plus les équipes accueillies, mais que se passerait-il quand le professeur partira en retraite alors qu'il n'y a pas de continuité des chaires au collège ? Comment résoudre les problèmes d'aménagement des locaux, de carrière des personnels, etc., avec des disciplines qui se renouvellent ? Insoluble. Insoluble, regardez le collège aujourd'hui. Les cours du collège diffusés sur France Culture et entre 5h et 6h du matin, c'est à l'heure retenue les premières années. Qui écouterait ces spécialistes parlant de leur domaine de recherche pointu, même s'ils étaient littéraires ? Les camions revenant de Rungis, les taxis en route pour Roissy, à cette heure-là, eh bien, dès le début, nous avons eu autour de 150 000 auditeurs à comparer aux 400 places de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre et aux 200 places à peine de l'ancienne salle Bergson, où les plus vieux d'entre nous ont fait leur leçon inaugurale et donné leur cours. Tout cela a été rendu possible par l'énergie, les idées, l'audace de Jacques Glowinski. Mais rien de tout cela n'aurait été possible. Et même tout cela, qui comportait une prise de risque chaque fois, aurait probablement tourné à la catastrophe sans son respect de l'institution. Il aimait rappeler son parcours personnel, qui était exceptionnel, comme vous savez, et émouvant, par l'intelligence et le courage dont témoigne ce parcours, par son origine, par le destin des siens, par ce qu'a représenté pour lui et pour eux deux sa rencontre avec Isabelle. Ce parcours avait vu son couronnement, où il avait vu lui-même, y avait vu son couronnement, dans son élection comme professeur, puis comme administrateur du Collège de France. Et à juste titre, je ne l'éprouve pas par moi-même, mais à la génération précédente, et par mon père, je sais ce que c'est. Il en était profondément reconnaissant au Collège, car il avait ancré en lui la véritable élégance, ce qui est le critère de l'élégance, qui est de savoir être reconnaissant. Il était reconnaissant à tous ceux qui l'avaient aidé, et il était reconnaissant avant tout au Collège de France. Il était soucieux de préserver les valeurs et même les usages de cette maison qu'il aimait tant. Il n'était ni prétentieux, ni vaniteux. Il n'y faisait pas de sa fonction pour se mettre en avant et surtout pour, en posant à l'iconoclaste qui bouleverse tout parce qu'il se croit supérieur à tout, se donner une prestance. Il n'aimait ni... C'est vrai, il était sous Paulet. Mais il n'aimait ni choquer, ni blesser. Il ne voulait jamais être blessant. Il n'était pas blessant. Il savait aussi que, contrairement à la formule fameuse du guépard, il n'est pas vrai qu'il faille que tout change pour que rien ne change. Mais qu'au contraire, il faut respecter les choses et les gens si on veut qu'elles changent et qu'ils changent. Et d'abord, au Collège de France, en respectant tout le monde et en respectant la collégialité du groupe restreint des professeurs. Il mesurait évidemment que les changements qu'il introduisait au collège entraîneraient un gonflement, voire un changement d'échelle de l'administration. Il respectait les compétences de l'administration comme il respectait toutes les compétences de tout le monde. Mais il savait aussi que pour que le collège conservât sa liberté et son caractère, il était indispensable que l'administrateur fût constamment présent, qu'il eût l'œil à tout et qu'il fît sentir à chaque instant qu'il était seul maître des décisions sous le contrôle de l'Assemblée des professeurs et d'elle seule. Et cette autorité, il l'avait. Jacques Glowinski, chaleureux et détendu dans ses manières, profondément amical et attentif à chacun, avait de l'autorité et il avait de la tenue. Il avait une conscience très aiguë de ce qu'il devait au collège. Il le lui a rendu en l'embellissant et en accroissant son rayonnement. Et tout cela, il l'a fait pour le préserver.